Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Uvira au sud Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Ouverture ce vendredi à Nairobi au Kenya d'un dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes armés tels que décidés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les groupes armés de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu sont tous concernés par ce dialogue. Vous souvrez leur cartographie en début de ce journal. Au Kasaï central, la Ligue de la zone Afrique pour les droits des enfants et élèves alerte sur le retour du phénomène d'enlèvement d'enfants à Kananga. Les coordonnateurs de la LISADEL demandent aux autorités de renforcer les mesures pour décourager ce phénomène. 52% d'enfants exercent des travaux dangereux dans les zones minières artisanales de Calais et au Sud Kivu. C'est ce qui ressort des résultats d'une étude menée par l'Institut national des statistiques. Radio Kapi reçoit à ce sujet les directeurs provinciaux de l'INS Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouverture ce vendredi à Nairobi, au Kenya, d'un dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes armés tels que décidés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les groupes armés de l'Ituri, dont la Codeco, sont également concernés par ce dialogue. On estime à ce jour à une douzaine le nombre des groupes armés actifs dans cette province, principalement dans les territoires d'Irumu, Djougou, Mahagi et de Mambasa. L'activisme de ces groupes armés a de graves conséquences sur les populations. Certaines de ces milices, dont la Codeco, exigent dans leur cahier de charge notamment la roulement dans l'armée et l'amnistie. Martial Kizabiamungu nous en dit plus dans ses reportages depuis Bounia.
C'est depuis plus d'une décennie que des groupes armés sont signalés dans la province de l'Ituri, jadis un des districts de l'ancienne province orientale. Certains miliciens ont été démobilisés entre 2005 et 2006, mais d'autres sont restés en brousse, notamment la FRPI. 12 ans après, à partir de décembre 2017, les violences vont refaire surface dans les territoires de Djougou. L'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, IRDPC bar Codeco, est les plus actifs. Dans son cahier de charge, cette milice exige l'amnistie pour tous ses membres, l'enrôlement au sein des FRDC ou encore la libération de leurs membres en prison. Par rapport au dialogue de Nairobi, la Codeco dit attendre une invitation officielle de Kinshasa. Cependant, ce mouvement s'est dit favorable au processus des DRCS. Au sud de la province, c'est la même situation dans les territoires d'Irumu, avec la présence de nombreux groupes armés dont la FPIC et la FDBC. La FPIC, quant à elle, s'est dit favorable au pourparlers direct avec le gouvernement congolais, même si selon son porte-parole, elle n'a pas encore été contactée par Kinshasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, quelques groupes armés locaux opérant dans les territoires d'Uvira, de Fizi, Tombwe prennent part aux assises de Nairobi. Parmi eux, le groupe Yakutumba et Twiraneo, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, les acteurs de la société civile au sud Kivu émettent des réserves sur la réussite de cette approche. Ils disent attendre la mise en œuvre des décisions de Nairobi sur le terrain. Et c'est au regard des échecs des négociations précédentes avec des groupes ainsi que les enjeux politiques régionaux, nationaux et communautaires. Des détails avec Fiston Goma.
Yakutumba est représenté à Nairobi par son porte-parole, tandis que le groupe Twiraneo est représenté par un proche membre de la diaspora basé à Nairobi. Les noms des autres délégués des groupes armés n'ont pas été révélés. Ils sont près de 70 groupes armés qui avaient pris part aux rencontres de Maurice à 1 et 2 et à d'autres rencontres d'Uvira. Beaucoup parmi ces groupes à l'époque souhaitaient leur intégration avec reconnaissance de leur grade dans l'armée, ainsi qu'une bonne prise en charge pour ceux qui choisiraient la vie civile. L'option réintégration dans l'armée a été bannie dans le programme PDD-RCS. Les acteurs de la société civile estime que le vrai enjeu de Nairobi privilégie plutôt le M23, l'interlocuteur direct actuel du régime de Kinshasa dans ses assises. Pour ces acteurs, la même cause produisant les mêmes effets, les accords avec le M23 n'ont jamais été révisés. Laisserait une brèche pour d'autres groupes armés de réintégrer l'armée, ainsi de revenir à la case de départ, des tristes brassages et intégration des groupes armés. Une approche qui risque de tacler celle adoptée par le PDD-RCS. D'Uvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Et puis la province du Nord Kivu compterait entre 40 et 52 groupes armés à ce jour. C'est ce que révèlent les sources du programme de démobilisation et réinsertion communautaire PDRC et d'autres acteurs. Ces groupes armés, dont le M23, ont chacun diverses revendications. Bernard Nyangui.
En plus du mouvement rebelle du 23 mars M23, environ une cinquantaine d'autres groupes armés sont identifiés au Nord Kivu. Pour les sources du PDDRCS, parmi les grands dans le territoire de Walikale, on peut citer le Kifuofua de Delphine Baenda et un des rénovés de Guidon Chimurai. Dans le territoire de Masisi, on a l'APCLS de Janvier Kalaheri, le NDC rénové de Bouira et Mapenzi, le groupe IPDC de Billy Koliko, Maemae Lamuka de Noama Chano, FDDH de Doussabe. Parmi les dizaines qu'il y a en territoire de Rutshuru, on peut citer l'AFRC de Kakule Jetem, le FDLR, alors qu'à Lubero et Beni, on a entre autres le FPP de Kabidon, les Maï Maï Léopard et UPLC de Mayani, entre autres. Pour un animateur de PDDRCS à Goma, une dizaine de ces groupes ont déjà adhéré au processus de reddition volontaire en abandonnant leurs revendications. Plus de 1000 de leurs combattants et leaders sont déjà passés par l'opération d'identification biométrique en cours sur le site de Mubambiro en attendant le lancement de la réinsertion communautaire. Mais pour le M23 en particulier, les principales revendications restent entre autres la sécurisation des terres de leurs combattants et le retour en RDC de dizaines de milliers de leurs parents réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la Ligue de la zone Afrique pour les droits des enfants et élèves, l'ISADEL, alerte sur le retour du phénomène d'enlèvement d'enfants à Kananga. En l'espace de 2 semaines, 2 cas ont été documentés, dont un enfant enlevé dimanche dernier devant une église et amené vers une destination inconnue. Le coordonnateur de la ISADEL s'inquiète et appelle les parents à prendre des mesures qui conviennent pour protéger leurs enfants. Jean-Malice Lungala demande par la même occasion aux autorités de renforcer les mesures pour décourager ce phénomène et arrêter les personnes qui commettent ces actes d'enlèvement d'enfants sur la ville. Il est au micro de François Kadima.
Nous avons observé une situation inquiétante dans le sens qu'il y a 2 semaines où un enfant avait été kidnappé ou soit enlevé par un inconnu au sortir de l'église avec sa grande sœur. L'enfant a été pris par un inconnu. Comme Dieu merci, l'enfant a été retrouvé abandonné quelque part. C'était au niveau de Kamulumba, dans la commune de Kananga. Mais ce qui est plus encore grave, c'est que le dimanche passé, soit en date du 20 des mois en cours, au sortant encore de l'église, même mode opératoire, un inconnu est arrivé encore de la moto. Il a pris un enfant de plus ou moins 6 ans. Il a mis sur la moto dans la distraction. Et c'est quand la maman se rend compte qu'il n'avait plus l'enfant, on dit que non, mais il y a quelqu'un qui a pris ton enfant sur la moto et il est parti avec une destination inconnue. Alors c'est pour ça que nous, au niveau de la ISADEL, nous ne pouvons pas dormir. Il a fallu que nous puissions alerter cette situation ici pour que les autorités politico-administratives de la province puissent mettre en marche les batteries pour sécuriser non seulement la population entière et plus particulièrement les enfants qui constituent une des personnes vulnérables, pour que les enfants soient sécurisés et que les parents aussi veillent à l'encadrement des enfants sur n'importe quel chemin. Que les parents veillent, aucune personne qui ne soit pas connue d'eux ne puisse interpeller l'enfant, puisse appeler l'enfant pour la mettre sur sa moto.
Dans la province de la Tchopo, les importateurs de produits pétroliers de l'est de la RDC ont fermé leur station-service pour 2 jours à partir d'hier jeudi. En cause, le décès d'un chauffeur d'un camion-citerne, l'incendie de 2 camions-citernes transportant au total 80 mètres cubes de carburant, ainsi que la prise d'otage sur le tronçon Bunia-Mahagi de 10 personnes, dont 2 chauffeurs amenés en forêt par des présumés rebelles de l'ADF et libérés hier moyennant le paiement d'une rançon. En dépit d'un compromis trouvé entre le gouverneur de province et le président de ces importateurs, la spéculation est observée déjà chez les revendeurs de carburant dans les rues de la ville de Kisangani. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Hier jeudi et ce vendredi, quasiment toutes les stations-service de carburant provenant de l'est du pays restent fermées. Selon le président des importateurs du carburant à partir de l'est, Kip Tamboué, ils observent notamment un deuil en mémoire du chauffeur décédé calciné par les présumés ADF.
Nous avons fermé nos stations pour honorer la mémoire de celui qui est décédé calciné et aussi de ceux qui sont aujourd'hui à des différentes forêts.
La fermeture des stations-service a entraîné la spéculation chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Un litre d'essence vendu à 2750 francs congolais à la pompe est passé brusquement à 5000 francs congolais. Et c'est en dépit du compromis trouvé entre le gouverneur de province par intérim Maurice Abibou Sakapela et le président de ses importateurs. D'après ce modus vivendi, 3 stations doivent fonctionner pour soulager la population.
La station Taksem, à côté de la résidence de l'honorable Tokole, il y a aussi 2 stations Glodi, c'est-à-dire la station Glodi aux environs du bureau de l'ANER et celui de 5e avenue Kabondo seront opérationnels.
Le président des importateurs des produits pétroliers de l'Est prévient que si la sécurité n'est pas assurée sur la RN4, Kisangani risque de connaître la rupture du carburant dans les prochains jours. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Toujours dans la province de la Tchopo, lancement hier à Kisangani de la campagne de sensibilisation multidimensionnelle sur les maladies virales de manioc sous le thème « Ensemble sauvons notre notre manioc. C'est une initiative de l'Institut facultaire des sciences agronomiques à travers son programme dénommé WEV IFA Yangambi. Selon les directeurs pays de ce programme, ces maladies qui détruisent la culture du manioc n'ont pas de remède curatif. Toutefois, déclarent les professeurs Godefroy Monde, les producteurs, les chercheurs, les consommateurs ainsi que les décideurs doivent être informés sur les dispositions préventives à prendre pour ne pas faire disparaître la culture du manioc dans nos milieux. Il est au micro de Jacques Moukonkoli.
Que ce soit la strure brune ou la mosaïque africaine du manioc sont des maladies virales provoquées par de virus et transmises par la mouche blanche, propagées par la mouche blanche et par le bouture contaminé. Depuis la Tanzanie, depuis 1936 et aujourd'hui en 2022, nous en parlons à Kisangani. Et la maladie en train de progresser de l'est vers l'ouest de l'Afrique. La RDC est déjà touchée, la Tchopo est touchée, donc nous devons vivre avec, mais prendre des dispositions pour que le manioc ne disparaisse pas. Il n'y a pas de remède curatif. Ce que nous préconisons, c'est la prévention, qui consiste à utiliser le bouture saine, à éviter d'utiliser le bouture à la plantation, de boutures qui sont déjà infectées de la mosaïque et de la strure brune, à observer de bonnes pratiques culturelles et à procéder à l'indexage des semences, notamment de boutures, avant de le planter. Nous devons multiplier le bouture saine, le bouture provenant de cultivars résistants et améliorés et les disponibiliser aux agriculteurs. Voilà pourquoi nous travaillons avec les agrimultiplicateurs. Les agrimultiplicateurs multiplient, CNASM certifie et ces boutures-là, nous les mettons à la disposition des producteurs.
Il faut signaler que le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo promet de soutenir et d'accompagner ce programme. Maurice Abibou Sakapela affirme par ailleurs encourager l'éclosion de l'agriculture dans la province de la Tchopo. Et puis la présidence de la République annonce l'introduction de la farine de manioc en remplacement du blé dans la planification et la pâtisserie en RDC. Un atelier a été ouvert hier jeudi à Bibwa ici à Kinshasa et va se clôturer demain samedi sous la coordination du conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Cet atelier vise à élaborer un plan d'action très détaillé du projet de structuration et de modélisation de la filière manioc. Écoutez à ce propos Ngwala Malemba au micro de Jeff Ngoy.
L'avantage de la promotion de la farine du manioc panifiable est que la norme elle-même prévoit que le manioc qui sera transformé en farine panifiable en RDC doit être ce manioc qui est cultivé en RDC. Ce qui va booster en fait la production du manioc et qui va beaucoup encourager le paysan et tous les acteurs privés qui œuvrent dans la filière manioc, tout simplement parce qu'il y a un grand marché qui s'ouvre. Aujourd'hui, avec l'application de la norme, nous avons besoin d'avoir plus de 144 000 tonnes de racines tubéreuses du manioc par an, alors qu'aujourd'hui, la RDC ne produit que 41 000 tonnes. Et nous avons besoin d'avoir 36 000 tonnes au minimum de la farine du manioc panifiable. Et le projet qui est financé par la banque avec les ressources que nous avons mobilisées en phase pilote, le projet de structuration et de modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine panifiable, va donc aider à mettre à disposition 18 000 tonnes de farine du manioc panifiable et nous allons mobiliser d'autres ressources pour compléter jusqu'à atteindre le maximum nécessaire.
Plusieurs institutions de la République souffrent d'un manque criant de frais de fonctionnement et autres frais connexes de droit. C'est le cas du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CENSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, ainsi que de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Si pour les uns, ces frais ne tombent qu'une seule fois l'an, d'autres ont passé plusieurs années sans rien toucher. C'est le cas notamment du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral, CENSA en sigle. D'après une correspondance de Joseph Olengankoy, président du CENSA au Premier ministre, cette institution de la République n'est pas en mesure d'assurer sa mission faute de frais. Des détails avec Jacques-Yves Molima.
C'est depuis 3 ans et demi que le CENSA n'a reçu ni frais de fonctionnement, ni tout autre frais connexe de droit, peut-on lire dans cette correspondance. Et pourtant, souligne Joseph Olengankoy, cela est repris dans les différents budgets mais jamais exécuté. Cette ségrégation institutionnelle, selon ses propres termes, porte gravement atteinte et préjudice à la République du fait de la non-réalisation des missions dévolues au CENSA consécutives à cette paralysie. Toujours dans sa correspondance, le président du CENSA atteste que les membres de cette institution n'ont jamais reçu ni bureau, ni équipement du bureau, ni véhicule de fonction, encore moins les indemnités kilométriques. Situation quasi similaire dans les autres institutions d'appui à la démocratie. D'après un responsable du CESAC, contacté par Radio Capi, depuis le début de l'année 2022, aucun frais n'est perçu. Et d'ajouter que même l'année 2021, le CESAC n'a été servi que pour un seul mois. Et depuis lors, malgré toutes les démarches entreprises auprès des autorités du pays, la situation demeure inchangée. De ce fait, Joseph Olengakoy demande au Premier ministre de faire bénéficier au CENSA ainsi qu'aux autres institutions des fonds prévus au budget en leur faveur pour permettre à chacune d'elles d'accomplir sa mission.
Actualité internationale.
Au Mali, l'armée française accuse les mercenaires russes de manipulation. Elle annonce avoir filmé les images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication d'une Infox par les mercenaires russes de la société Wagner. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi, une base que les Français ont rendue aux militaires maliens il y a quelques jours. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Au Kenya, l'ancien président Mwai Kibaki décède à l'âge de 90 ans. L'annonce a été faite ce vendredi par la présidence kényane. Il a été le troisième chef de l'État du pays de 2003 à 2013. L'actuel président a regretté la disparition d'un grand leader qui a enseigné l'économie pendant plusieurs années avant de rejoindre la lutte pour l'indépendance.
L'invité.
52% d'enfants exercent des travaux dangereux dans les zones minières artisanales de Calais au sud Kivu. C'est ce qui ressort des résultats d'une étude menée par l'Institut national des statistiques. Radio Okapi reçoit ce sujet Innocent Kadekere, directeur provincial de l'INS sud Kivu. Il s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Innocent Kadekere, bonjour.
Bonjour madame.
Parlez-nous des résultats de cette étude sur la situation des enfants dans les zones minières.
En parlant des résultats, je vais commencer par la situation du travail des enfants dans les zones minières, particulièrement dans les zones de santé qui ont été couvertes par l'étude. Quand on voit les travaux dommageables, nous entendons par travail dommageable les travaux qu'exercent les enfants au-dessus du seuil spécifique à leur âge. S'agissant des enfants qui exercent les travaux dangereux, nous avons trouvé dans la zone de santé de Calais 52% d'enfants qui travaillent. Et dans la zone de santé de Minova, c'est 20% d'enfants. Quand nous disons conditions dangereuses, ce sont des conditions qui mettent en danger la vie des enfants. Les enfants qui travaillent avec des outils dangereux, les enfants qui travaillent dans de fortes températures, dans une forte humidité.
Mais pour quelle fin avez-vous mené cette étude?
Nous avons mené cette étude pour essayer de cerner la problématique de la privation des droits des enfants. Les enfants sont privés de leurs droits. Vous savez, pour suppléer aux revenus des ménages, les enfants aussi participent aux activités qui contribuent à améliorer les revenus des ménages. Avec le partenaire UNICEF, nous nous sommes engagés à vouloir cerner la situation des enfants qui sont dans le travail avant l'âge.
Comment avez-vous mené cette étude et pendant combien de temps pour arriver à ces résultats?
L'étude ou la collecte a été faite par 24 enquêteurs dirigés par 6 chefs d'équipe, supervisés par un superviseur, mais toute l'équipe était coordonnée par un coordonnateur. Et ce travail de collecte a fait 28 jours dans les deux zones de santé. C'est à travers cette étude que nous avons menée avec des méthodes appropriées et puis nous avons fait les analyses. On a croisé certains indicateurs. En croisant ces indicateurs, voilà, nous sommes arrivés aux proportions que nous sommes en train de vous communiquer.
Quel est l'objectif de cette étude et que visez-vous?
En réalité, l'Institut national de la statistique met à la disposition de l'autorité des évidences pour élaborer des programmes, des projets visant à renverser la tendance. C'est ça notre rôle. Et quant à l'autorité, d'agir. Mais nous lui montrons, voilà la situation.
Vous avez lancé officiellement les débuts des ateliers sur la dissémination des résultats de cette étude. Comment cela se fera-t-il?
Comme c'est une étude pointue, nous avons commencé par la ville de Bukavu, qui est la capitale de la province. C'est pour que d'abord l'autorité provinciale puisse s'approprier de ces résultats-là. Après, nous irons dans les zones où nous avons réalisé l'enquête, la zone de santé de Minova et la zone de santé de Kalehe. Dans ces zones, nous allons procéder maintenant à la dissémination des résultats, à la restitution des résultats. Tout en restituant les résultats, nous allons essayer de voir avec les acteurs clés, de ces deux zones de santé, les organisations qui sont impliquées dans la protection des droits des enfants, on va essayer de formuler les réponses vis-à-vis aux indicateurs qui ont été renseignés. Nous allons les traduire en cahier de plaidoyer que nous allons soumettre maintenant à l'autorité provinciale pour élaborer des programmes visant à renverser la tendance.
Quels vœux ont émis les enfants que vous avez rencontrés faisant ces travaux dangereux ?
On demande aux enfants leurs aspirations. Quelles sont vos aspirations du moment, vos aspirations futures ? Que ce soit à Minova, que ce soit à Kalehe, les enfants aspirent à aller à l'école, poursuivre les études. Voilà pourquoi il est grand temps de rompre cette chaîne pour que les enfants aillent effectivement à l'école. C'est à cause de la pauvreté que ces enfants sont dans les mines. Ils ont proposé, pour qu'on arrive à rompre cette chaîne, les soutiens à leur ménage, à leur famille, par les activités génératrices des recettes. Et certains ont proposé un appui financier au ménage pour prendre en charge les soins médicaux et leur éducation.
Je vous remercie.
C'était notre invité, le directeur provincial de l'Institut national des statistiques au Sud Kivu, Innocent Kadekere, s'entretenait avec Rachel Kessembangou. Merci d'avoir suivi ce journal, mais n'oubliez pas que vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.